Karine Niles. Bonjour.
Bonjour.
Ce n'est pas vraiment une habitude, Karine, mais tu vois, on va se tutoyer dans une interview. D'habitude, je vous vois les gens et on se connaît un peu. Châteaubriand, ça évoque quoi pour toi ?
Tout plein de souvenirs d'enfance, déjà. Tout plein de souvenirs que je partage avec mon père et avec mes grands-parents. Puisque depuis que je suis toute petite, depuis que mon père, lui, était tout petit, on vient à Châteaubriand aux cérémonies commémoratives pour les 27 fusillés. Voilà, donc ma grand-mère, elle était internée au camp de Châteaubriand et mon grand-père lui a été interné à Veuve. Mais ils se sont retrouvés dans cette association de familles, d'internés, de fusillés, qui a été créée le 30 septembre 1945. Donc on est le 75e anniversaire cette année de la création de cette amicale. Et ils sont dedans depuis pratiquement le début. Voilà, donc moi, c'est de venir chaque année à cette commémoration. Et puis depuis, je ne sais plus maintenant, 5-6 ans, je suis devenue la secrétaire générale de cette association. Donc j'ai repris le flambeau de mes grands-parents.
Tu peux nous parler un peu de tes grands-parents ?
Oui, alors je dis souvent, c'est un peu... Ma grand-mère aujourd'hui, mon grand-père est décédé depuis bientôt 19 ans. Et ma grand-mère reste ce que j'appelle la femme de ma vie. Voilà. On est très proches toutes les deux depuis toute petite. J'étais pratiquement élevée, je suis très proche de mes parents, mais j'étais pratiquement élevée par mes grands-parents. Et donc ça a été un peu elle qui m'a accompagnée dans toute ma vie. Et elle m'a toujours parlé de l'amicale, elle m'a toujours parlé de ce qu'elle avait vécu, toujours par des petites anecdotes. Donc j'ai appris tout ce qu'elle avait vécu au camp par des anecdotes. Qui ont accompagné, je dirais, ma découverte de l'adolescence, des premiers amours. Ben, c'est là qu'elle m'a parlé de Guy Moquet, voilà, de ce qu'elle avait vécu avec Guy, ce qui ne s'était pas concrétisé, entre guillemets, hein, puisqu'il lui a fait dans le dernier petit mot, tu ne m'as pas donné ce que tu m'avais promis, qui était le baiser qu'il devait avoir. Donc elle m'a accompagnée dans ma vie, comme ça, toujours avec plein d'anecdotes. Voilà, quand elle a été arrêtée, comment elle a rencontré et découvert ce que c'était qu'une prostituée. Elle n'avait jamais vu, elle avait 17 ans et demi. À cet âge-là, quand on vit en région parisienne, dans une petite ville, Drancy était une petite ville, on ne connaissait pas. Et tout ce qu'elle a rencontré, comment elle a vécu le camp, cette fraternité qui s'est développée entre ses copines, ce petit groupe de 6 filles, les bistouillardes. Moi, ça a accompagné toute ma vie. Le petit landau dans lequel moi, mes parents m'ont mis, bah, c'était aussi un landau qui avait circulé entre les filles, les petites filles. On se connaissait tous, c'était une grande famille. Moi, je connaissais les petits-enfants, des filles qui avaient été, donc dont les mères avaient été au camp avec ma grand-mère. On a formé une grande famille. Aujourd'hui, ma grand-mère est la seule qui reste, des fameuses 6 bistouillardes. Donc c'est un peu une famille qui s'éteint. Alors on continue à se côtoyer par le biais des enfants, des petits-enfants, mais de loin. Parce qu'elles ont effectivement, elles, éteint cette fraternité qu'elles avaient, qu'on ne retrouve pas, qu'on ne développe pas nulle part. Elles étaient soudées, c'est je pense qui leur a permis de vivre à peu près correctement en camp, quand on est enfermé, quand on a 17 ans. Il y a un petit poème, je disais tout à l'heure, j'ai un petit poème que je sortirai l'année prochaine pour le 80e anniversaire des fusillés. Petit poème de ses 20 ans, qui a été écrit au camp. Voilà, avoir 20 ans au camp. Ça fait écho à ce qu'on disait en ce moment, l'actualité. Avoir 20 ans pendant le confinement, avoir 20 ans avec la pandémie virale, avec... le couvre-feu, c'est très particulier. Ben elle, c'était avoir 20 ans en camp d'internement. Voilà, donc c'est des histoires qui font des échos. Voilà, j'ai été bercée par tout ça. Ça m'a constituée, ça a permis aussi d'élever mes enfants. Je les ai aussi élevés un peu comme ça, avec cette idée de fraternité, de partage. Donc voilà, c'est un petit peu toute ma vie Châteaubriand.
Mais on ne se rend pas compte parce qu'elle est incroyable, ta grand-mère. J'ai eu la chance de la rencontrer, mais elle est incroyable. Mais... ce qui me semble encore plus incroyable, c'est qu'il faut resituer dans le contexte. on est sous l'occupation, on n'a pas de réseaux sociaux, on a ses jambes pour marcher ou un vélo à la rigueur, mais c'est incroyable. Ta grand-mère, il faut dire, parce que les gens ne savent peut-être pas, qu'elle a été internée dans plusieurs camps.
Oui, elle a fait tout un parcours. Alors déjà, qu'est-ce qu'on dit, effectivement, il n'y a pas de réseaux sociaux, mais qu'est-ce qu'elle faisait ? Eh bien, elle faisait tout simplement ce que faisaient beaucoup de jeunes à son âge. Mais après, c'était aussi une autre culture. Elle a fait partie de ce qu'on appelle du mouvement des jeunes filles de France. Alors, à partir de 12-13 ans, hein, c'était petit, effectivement. Mais c'était aussi une façon de vivre. C'est-à-dire que ses parents, son père était syndicaliste, il faisait des cannes. Un métier dans le bois qui n'existe plus, un métier qui a disparu, il faisait des cannes, mais lui, il était dans le syndicat. Et sa mère, elle était simple femme de ménage.
Mais tu veux dire qu'on acquiert une conscience politique à quel âge ?
Eh bien là, elle a commencé toute jeune. Donc toute jeune, c'était ce rapport. Donc on expliquait, c'était déjà développer l'amitié, la collectivité. Et ça, il le développait très tôt. Aujourd'hui, on le développe par l'école, un petit peu le centre de loisirs. Mais ça s'arrête à ça, puisque l'engagement dans les associations, aujourd'hui, on le voit, ça se perd. Donc, il n'y a plus de militantisme, il n'y a plus non plus ni les partis, ni les syndicats, tout le monde perd. Donc là, eux, le mouvement des jeunes filles de France, c'était ça. C'était comment on sort en groupe, comment ce qu'on retrouve un petit peu encore aujourd'hui, qui reste un peu, qui perdure, c'est les scouts, quelques engagements comme ça. Mais c'est ça se dilue aujourd'hui dans la vie. Mais elle, donc, elle était dans les jeunes filles de France. Et après, elle a fait partie d'un... C'était des petits groupes. Donc, elle dit, on marchait en triangle. Donc, il fallait effectivement, on n'en connaissait qu'un seul dans le triangle pour éviter de pouvoir avoir à dénoncer quelqu'un. Si on dénonçait, on dénonçait qu'une personne. Donc, on avait ces réseaux qui se sont constitués, mais parce qu'on avait déjà eu, donc, dans notre enfance, cet esprit où, effectivement, on savait comment on fonctionnait, la solidarité, la fraternité, tout ça, ça fonctionnait bien. Et on discutait de l'actualité. Donc là, discuter de l'actualité, c'était après 1940. Voilà, ben qu'est-ce qu'on fait ? On est sous le joug allemand, c'est pas possible, il faut qu'on résiste, il faut qu'on fasse quelque chose. Alors quand je dis on résiste, c'est pas un terme de résistant. Hein ? Ça viendra bien après où on dira qu'ils ont fait de la résistance. Elle a toujours dit, moi j'ai pas fait, je me suis pas dit je vais faire de la résistance, je me suis pas inventée résistante. On s'est dit, voilà, nous on va s'organiser, on va distribuer des tracts, on va les faire. Donc il y avait des copains qui faisaient des tracts et nous on les prenait dans nos sacoches, effectivement, on allait à vélo et on avait des endroits où on distribuait. Voilà, c'était pas grand chose, mais ça c'était important pour nous de se dire c'est pas possible, on ne peut pas rester à rien faire.
Mais il n'y a pas une peur ?
Si, on a peur, mais à 17 ans, on s'en fout, enfin peu importe, c'est... C'est un peu aujourd'hui quand on voit ces jeunes qui disent « Oh ben non, moi je porte pas le masque parce que ben voilà, le virus il va pas m'atteindre. » À 17 ans, on se sent indestructible.
Oui, on est immortel.
Voilà, on est immortel. Même si on sait, par ses parents, qu'il y a un risque. Parce qu'elle dit « Moi je sais que mes parents avaient peur. » Bon, son père a été arrêté lui aussi. Mais sa mère, elle avait très peur. Elle avait peur pour elle. Donc c'était aussi ça. Elle savait qu'il fallait qu'elle fasse attention. Mais après, qu'est-ce qu'elle risquait ? Elle s'est dit, je ne sais pas, donc elle ne connaissait pas l'arrestation, elle ne connaissait pas les prisons, elle ne connaissait pas ce que je vous disais, les prostituées. Donc, quand on ne sait pas ce qu'on risque, on y va.
Et aujourd'hui, pour transmettre ça, ta grand-mère, durant longtemps, elle allait auprès des jeunes, auprès des écoles. Aujourd'hui, qui est-ce qui transmet cela ? Qui est-ce qui transmet ce message chez toi ?
Alors elle l'a fait, là elle est en maison médicalisée parce qu'elle ne marche plus, mais elle a toute sa tête. Hein. Donc elle va avoir, là le 27 décembre de cette année, elle aura 98 ans. Donc elle me dit, moi maintenant je vais aller aux 100 ans. Hein. Alors il n'y a pas de raison, oui. Moi, je veux y aller. Oui. Voilà. Et jusqu'à l'année dernière, elle est allée, donc elle est en fauteuil, hein, mais elle est allée en fauteuil à un collège qui est à une rue juste derrière. La maison médicalisée, on l'a accompagnée avec son fauteuil. Elle est allée dans le collège, elle est allée encore parler, voilà, expliquer. Et là, c'est marrant parce qu'il y avait tout plein de jeunes dans la salle et il n'y a pas un mot, ça ne bouge pas. On dit souvent la région parisienne, ça bouge, ils sont tumultueux, ces jeunes. Là, ça ne bougeait pas, ils écoutent. Ils écoutent parce que elle a... Alors, est-ce que c'est un choix aussi ? Est-ce que c'est sa vie qui a fait que elle a été directrice de centre de loisirs ? Donc, parler à des enfants, leur expliquer des choses, ça a été quelque chose pour elle qu'elle a fait toute sa carrière. Et donc, elle a toujours eu ce petit quelque chose qui passait bien avec les enfants, comme elle l'a eu avec moi et avec mes enfants. Elle sait, elle savait nous parler, nous expliquer, nous transmettre des messages. Et quand elle parle, ben elle parle, comme je peux vous parler aujourd'hui, de petites anecdotes, de choses qui touchent. Voilà, c'est touchant. Toujours parler de la fibre, toujours parler de quelque chose qui peut toucher les gens. Sinon, c'est pas la peine.
Le 22 octobre 1941, ici même, ont été fusillés par les Allemands. À 15h50, Charles Michels, Jean Poulmarc, Jean-Pierre Timbaud, Jules Vercruis, Désiré Granet, Maurice Gardette, Jean Grandel, Jules Auffray, Pierre Guéguen, mort pour la France.
À 16h, Marc Bourris, Raymond Laforge, Maximilien Bastard, Julien Lepense, Guy Moquet, Henri Pourchasse, Victor Renel, Maurice Ténine, Henri Barthélémy, mort pour la France.
À 16h10, Maurice Tellier, Titus Bartoli, Eugène Kerivel, Huynh Quan Anh, Charles de Lavacry, Claude Lallet, Antoine Pesquet, Edmond Lefebvre, Émile David, mort pour la France.
Hommage également à ceux de Nantes, de la Blisière, du Mont-Valérien et à tous ceux qui donnèrent leur vie pour que vive la France.
Donc nous sommes à Châteaubriant, nous sommes sous l'occupation. Il y a combien de camps de prisonniers à Châteaubriant ?
Alors il y avait le camp P1, le camp P2, et ils étaient à peu près 600 dans ce camp-là. Donc 600 avec, je crois, autour de 50, 48 à 50 femmes seulement dans le camp. Tout le reste, c'était des hommes. Alors, il y avait une partie d'hommes, ce qu'on appelle politiques, et il y avait aussi tout un tas de droits communs. Voilà. Et il y avait, je crois, des tziganes, il me semble. Voilà.
Alors, ta grand-mère, Odette Nilès, elle t'a raconté la vie dans le camp de Choisel, c'était comment ?
Alors, au camp, elle, ce qu'elle me disait, c'est qu'ils se sont organisés très vite pour pouvoir... Ben, vaincre l'oisiveté, parce que les journées à rester enfermées, on l'a tous vu un petit peu là en plus pendant le confinement, c'est un peu compliqué. Donc là, eux, c'était aussi ça, c'était le confinement, c'était être enfermé. Alors ils avaient des accès dehors, mais c'était limité, gardé par les Français, hein, c'est toujours important de le dire, puisqu'ils n'ont vu les Allemands que 2 jours avant le choix, je dirais, des fusillés. Quand M. Chassaigne est venu au camp pour désigner et arrêter la liste des fusillés, il n'y a qu'à ce moment-là qu'ils ont vu une mitraillette avec des Allemands. Sinon, tout du long, elle n'a vu que des gendarmes français. Et donc, dans ce camp, ils se sont organisés avec des cours. Voilà. Donc, il y avait Delaune qui était là, qui était un sportif. Donc, lui, il organisait les cours de gym. Alors, comme elle me dit... Elle, on l'appelait Épinard parce qu'elle courait bien, apparemment. Alors, elle dit après, elle a su qu'il y avait un cheval de course, apparemment, à l'époque, qui s'appelait Épinard. Voilà, donc elle a toujours rigolé un peu quand on l'appelait comme ça, Épinard. Elle courait bien. Elle voulait être à l'origine, avant donc qu'elle devienne, je dirais, directrice de centre de loisirs. Elle voulait devenir professeure de sport. Donc, du coup, si elle avait passé son bac, elle aurait pu devenir professeure de sport. Donc, elle faisait de la course. Après, ils avaient des cours donc d'anglais. Elle a appris l'anglais. Donc, moi, quand j'ai commencé aussi, comme je disais, de tes petites anecdotes, quand j'ai commencé l'anglais au collège, alors elle était là derrière moi. Puis, elle me racontait 2-3 phrases dont elle se rappelait, qu'elle avait appris. Donc, c'était assez marrant. Elle avait appris un peu l'espagnol aussi, puisqu'il y avait quelques Espagnols. Donc, elle a retrouvé au fur et à mesure dans les camps. Donc, elle a pratiqué aussi. Voilà, puis les cours de maths. Donc, ils étaient vraiment très organisés. Et ça, c'est un petit peu suivi dans d'autres camps qu'elle a fait aussi par la suite. Ils avaient organisé, d'ailleurs, des universités. Donc, là, justement, le musée de Champigny, donc, qui est le musée de la résistance nationale, qui vient d'ouvrir ses portes là à nouveau dans des nouveaux locaux et qui nous apporte aussi, donc là, il va, pour l'année prochaine, pour le 80e anniversaire, il va nous apporter plein de choses nouvelles, dont des archives qui n'ont jamais été sorties. Dans le cahier, les cahiers de Rigaud. Donc, c'est un monsieur qui a fait tout un tas de cahiers donc, pendant ce camp où il relatait tous les cours qu'il faisait. Donc, c'est extraordinaire de voir comment c'est écrit à la plume, c'est magnifique. Et ils s'occupaient, voilà. Ils ont fait aussi des pièces de théâtre. Alors, comme elle dit, on a été confrontés après, quand on avait, parce qu'il y avait quelques photos de temps en temps qui ont été faites. Alors, moins de Chateaubriand, parce qu'il n'y avait pas de visite à Chateaubriand. Elle dit, on savait, il y avait un peu de contact avec les Castelbriantais parce qu'ils venaient de temps en temps autour du camp, mais il n'y a pas eu de visite, ils n'avaient pas de visite de famille, très 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 peu. Que dans les autres camps, il y a eu des visites parfois.
La population Castelbriantais, semble-t-il, a été solidaire avec les prisonniers ?
Oh oui, surtout, je dirais, bon, le lendemain, bien sûr, de l'exécution, hein, puisque oui, ça, je crois que ça a vraiment heurté, marqué. Beaucoup m'en ont parlé, même encore récemment. À chaque fois, je rencontre quelqu'un, vous savez, mon père, mon grand-père, il a entendu, il s'en rappelle. C'était vraiment flagrant. Pendant, c'était gardé quand même par les gendarmes, donc il n'y avait pas de visite. Alors, il y avait des gens qui étaient autour, il y en a qui ont aidé aussi, puisqu'il y en a qui se sont enfuis. Donc ça, effectivement, la population a soutenu. Et quand ils allaient, effectivement, voir le dentiste, M. Puboufa, ou quand ils sortaient du camp, là, ils pouvaient croiser un peu de la population. Mais sinon, ils étaient enfermés dans le camp. Hein. Le contact ne se faisait pas. C'était vraiment... Mais par contre, il y a une vraie solidarité avec la population qu'on a encore aujourd'hui. Notre amicale est très liée à Chateaubriand parce qu'il y a ce lien. Et encore aujourd'hui, on a beaucoup de Castelbriantais qui viennent. Alors, tout le monde ne connaît pas. C'est là encore notre travail qu'il faut qu'on continue pour bien montrer qu'est-ce que cette carrière, quel est ce musée, pourquoi ils sont là et pourquoi. Et dedans, d'ailleurs, dans nos expositions, on parle souvent des Castelbriantais.
Qu'il faut dire que la carrière des fusillés et la sablière, on peut aller la visiter en dehors des commémorations, en dehors du mois d'octobre. Tu peux en parler ? Tu peux nous en...
Oui, tout à fait. Donc le musée et la carrière sont accessibles en entrée libre toute l'année. Alors le musée, il y a des horaires parce qu'on a donc maintenant une intervenante socioculturelle qui est présente et qui fait des visites. Elle n'est pas là tous les jours, mais sur rendez-vous, elle accueille, elle est là les samedis, les dimanches. Elle est là aussi pendant l'été. Il y a des visites qui sont faites régulièrement. Il y a des initiatives qui sont faites pour les journées du patrimoine ou pour les nuits au musée. Et après, nous, on fait la rénovation. Donc, on a déjà fait toute une rénovation. On en a eu pour quelques 250 000 euros de travaux. Et là, on continue avec le monument qu'on va rénover pour le 80e anniversaire l'année prochaine, avec, pareil, autour de 100 000 euros de travaux. Donc, pour une association comme nous, où ce ne sont que des bénévoles, c'est lourd à porter. On est aidé pour ça par les collectivités. On est surtout subventionné, je dirais, par des dons de particuliers. Et ça, c'est vraiment important parce qu'à la base, la carrière, elle a vraiment été achetée uniquement avec les sous des familles d'internés. Ça, c'est important. Alors, on a eu aussi des donateurs de Chateaubriand, des donateurs de partout aussi qui nous ont aidés. Parce que ça, c'est indéniable. Sans le soutien, je dirais, des particuliers, on perd notre mémoire.
Donc l'année prochaine, 2021, 80e anniversaire, qu'est-ce qui se passera ?
Alors, 80e anniversaire. On a perdu un peu de temps avec le Covid, mais on est dans une préparation d'une cérémonie importante. Voilà. Mmh. On va drainer beaucoup de monde. On veut y faire venir beaucoup de jeunesse, de la jeunesse de partout, puisqu'on a, dans cette rénovation justement du monument, on a les alvéoles qui sont dans le soubassement. Ce sont des alvéoles qui viennent de tous les lieux d'internement, de résistance et de déportation, en France et dans le monde. Donc on a y compris de la terre d'Algérie, on a y compris de la terre d'Allemagne, d'Angleterre. Voilà. Et on collecte et du coup, on a fait venir des classes, c'est un projet pédagogique avec des scolaires, on a fait venir des classes là, depuis 4 ans, puisqu'on a commencé en 2016. Cette année, on n'a pas fait, puisqu'on n'a pas travaillé avec les scolaires, ce n'était pas possible. Mais on va faire revenir l'année prochaine d'autres scolaires, d'autres pays, y compris alliés. Avec la mairie de Chateaubriand, c'est pareil. On travaille avec eux pour travailler sur les villes jumelles, afin qu'on ait des échanges avec des jeunes qui viennent des villes jumelles. Et puis le conseil municipal des jeunes de Châteaubriant pour qu'ils puissent activement participer. Ils participent aux cérémonies, mais je dirais que là, c'est un petit côté un peu officiel, cérémonie. Tandis que l'année prochaine, on a envie qu'ils participent activement à notre cérémonie. Voilà. Et puis après, des personnalités. Alors, on sait déjà qu'on aura Robin Renucci, puisqu'on travaille avec les Tréteaux de France depuis 4 ans, et que ce sont eux qui écrivent le scénario, qui travaillent avec nous, qu'il y a des jeunes, donc ça fait, on a eu 3 années, des petits, donc on a eu la classe de Soudan, on a eu une classe de l'école des terrasses qui était passée, qui avait déménagé, on a eu l'année dernière aussi des enfants de la Comcom de Châteaubriant d'Herval qui participe à nos cérémonies. Et on a le but de faire venir aussi des jeunes de la région Île-de-France, parce que les internés, les fusillés venaient d'Île-de-France, et on aimerait qu'il y ait cette rencontre entre ces jeunes de l'Île-de-France, de Châteaubriant, pour pouvoir un peu refaire, je dirais, cette connivence. Ben, disons qu'on va travailler avec les Tréteaux de France à ce qu'il y ait un travail qui soit fait dans les classes ici, mais aussi en Île-de-France, et que le jour de la commémoration, le dimanche, ce soit vraiment la restitution d'un travail qui aura donné lieu à plusieurs séances en amont. Et là, on a la rencontre de ces jeunes qui sont issus de l'Île-de-France, là d'où venaient les internés, et des Castelbriantais.
Tu parles de jeunes parce qu'effectivement, on n'a plus grande personne vivante. Il y a bien sûr ta grand-mère Odette Niles qui est heureusement toujours vivante. Chaque année, chaque mois, on entend parler d'une des personnes qui part ou des personnes qui étaient dans le comité et qui s'en va. Et il est important d'avoir une relève.
C'est ça, c'est la relève. Donc on la constitue. Maintenant, on est en train de retravailler à reconstituer notre association. Comme toutes les associations, quand je disais on est dans un passage entre hier avec donc des survivants, avec des internés qui avaient vécu cette période-là, et aujourd'hui, les familles. Voilà. Et les familles et tous les amis, tous ceux qui se sentent investis et qui ont envie de participer à notre œuvre de mémoire.
Les jeunes, dès qu'ils viennent pour la première fois, quelles sont les questions les plus simples, les plus émouvantes ou les plus naïves qu'ils posent ?
Alors, il y a toujours le sentiment... ça, c'est vraiment la première des choses qu'on disait à ma grand-mère. Oh là là, moi, je ne l'aurais pas fait à votre âge, à 17 ans. Et à chaque fois, elle leur disait, mais si, tu l'aurais fait. Parce que tu ne te poses pas, c'est ce que je vous dis. Tu ne te poses pas la question, tu le fais. Mais tu ne te demandes pas si tu vas le faire, tu ne te demandes pas si c'est important, tu le fais. Et chacun, et à chaque fois, c'est, oui, peut-être, alors. Voilà.
La Sablière, ce n'est pas le parc Astérix, hein, ce n'est pas Disneyland, c'est pas on vient pas voir juste pour faire le curieux.
C'est vraiment là-dessus sur lequel on travaille. Nous, c'est pas un musée mort. C'est pour ça que là, le travail de partenariat qu'on a avec le musée de la Résistance nationale, c'est aussi de faire bouger. Ce que je vous disais tout à l'heure, on va faire sortir des archives qu'on n'a jamais vues. Ils ont un fonds d'archives et donc on va faire vivre ce musée. Et vivre ce musée, c'est par exemple une bande dessinée faite par Jean-Paul Marc pour son fils. Voilà. Donc c'est des dessins, ça a été fait, jamais on l'a vu. Voilà. Moi j'ai eu l'occasion de le voir au musée à Champigny, mais ça n'a jamais été vu, ça n'a jamais été sorti. Donc on va le sortir. Et ce musée vivant aussi, quand je le dis, c'est parce que pour moi il est vivant. Et je pense que c'est ça qu'on transmet aussi et qu'il faut qu'on transmette. Il y a un petit chien dans une vitrine, il y a un petit chien qui a appartenu à ma grand-mère, qui a été fait en toile de jute. Ce petit chien, j'ai joué avec pendant des années. Et quand je vais au musée, je le raconte. Et ce qu'on disait tout à l'heure, oui, moi aussi, je vais de temps en temps dans les classes maintenant. Et je raconte aussi ce que ma grand-mère m'a raconté, ce que mon grand-père m'a raconté, beaucoup moins. Parce qu'effectivement, on avait aussi, quand je disais que c'était la femme de ma vie, on avait toutes les deux quelque chose qui passait. Voilà. Parce que on se transmettait. On se transmettait quelque chose. Et là, quand on va voir les gens, quand je vais moi aussi dans les classes, aujourd'hui, j'essaye de transmettre ce qu'elle m'a transmis.
Merci.
Merci à vous.